d'abord les deux textes liturgiques de ce dixième dimanche après la Pentecôte, épître tiré de saint Paul aux Corinthiens. Mes frères, vous savez qu'étant païens, vous alliez comme on vous menait vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous déclare que personne, parlant par l'Esprit de Dieu, ne dit anathème à Jésus, que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur sinon par le Saint-Esprit. Sans doute, il y a diversité de grâces, mais il n'y a qu'un seul Esprit, qu'un même Esprit. Il y a diversité de ministères, mais il n'y a qu'un même Seigneur. Il y a aussi diversité d'opérations, mais il n'y a qu'un même Dieu qui opère tout en tous. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité de l'Église. L'un reçoit de l'Esprit le don de parler avec sagesse, un autre reçoit du même Esprit le don de parler avec science, un autre dans le même Esprit la foi, un autre le don des guérisons dans l'unique Esprit, un autre le don des miracles, un autre le don de prophétie, un autre discernement des esprits, un autre le don de parler diverses langues, un autre celui de les interpréter, mais tout cela c'est un même et unique Esprit qui l'opère, distribuant à chacun comme il lui plaît. Cela est pour l'Évangile. Continuation du Saint-Évangile selon Saint-Luc. En ce temps-là, Jésus dit cette parabole pour quelques-uns qui se complaisaient en eux-mêmes et se croyant justes et qui méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien se tenait debout, priait ainsi en lui-même, « Oh Dieu, je vous rends grâce parce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont voleurs, injustes, adultères, ni tel encore que ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tout ce que je possède. » Le publicain, au contraire, se tenant à l'écart, n'osait pas même lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine en disant, « Oh Dieu, ayez pitié de moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit chez lui justifié, et non pas l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, quiconque s'humilie sera exalté. Veuillez vous asseoir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, mes bien chers amis, la clé pour comprendre les textes liturgiques d'aujourd'hui me semble être l'oraison qui est magnifique. Qu'est-ce qu'on a dit cette oraison ? Texte fondamental. Si on comprend cette oraison, on comprend tellement de choses. L'oraison nous dit que Dieu manifeste principalement sa miséricorde, mais plus exactement la toute-puissance de Dieu se manifeste principalement dans le pardon et la pitié. Voilà le texte. Où Dieu, dans la toute-puissance, se manifeste principalement dans le pardon et la pitié, multipliez sur nous votre miséricorde. On a tendance à dire que Dieu manifeste sa toute-puissance à la création du ciel et de la terre. En envoyant ses ennemis en enfer ? Non. Dieu, dit l'Église, manifeste sa toute-puissance d'abord, principalement, dit le texte, par la pitié et le pardon. Évidemment, attention, il ne faut pas séparer en Dieu la miséricorde et la justice. C'est le drame de l'Église de Vatican II. Une des conséquences directes du Concile Vatican II, c'est justement d'avoir séparé la justice et la miséricorde. On garde la miséricorde, mais on supprime la justice. Le problème, c'est que si on supprime la justice, on supprime la miséricorde. La miséricorde, ce n'est pas de la bonasserie, ce n'est pas, pas de la faiblesse. Il faut justice et miséricorde. En quelque sorte, on peut dire que la justice sera la colonne vertébrale de la miséricorde. Miséricorde sans justice, c'est la faiblesse. Justice sans miséricorde, ça peut être la dureté. Donc il faut les deux bien comprendre que pour que notre Seigneur Jésus-Christ exerce sa miséricorde, il faut un certain nombre de conditions. Il faut en quelque sorte ouvrir la porte de notre âme à la miséricorde du bon Dieu. Si je maintiens la porte de mon âme étroitement fermée, comment voulez-vous que Jésus, notre Seigneur, exerce sa miséricorde ? Notre Seigneur ne va pas rentrer dans notre âme avec un pied de biche, si je ne veux pas ouvrir la porte. Il frappe. Il attend qu'on ouvre. Notre Seigneur ne va pas également exercer sa miséricorde pour quelqu'un qui a toujours l'intention d'enforcer Dieu. Ça, c'est l'Église moderne. Dieu est plein de miséricorde pour les pécheurs. Non, Dieu est plein de miséricorde pour les pécheurs qui regrettent ses péchés. Donc l'Église du catéchisme enseigne, je vous rappelle des choses que vous connaissez bien, l'Église enseigne que pour pouvoir utiliser la miséricorde du bon Dieu, c'est un nombre de conditions. D'abord, évidemment, il faut la contrition. La contrition, c'est-à-dire le regret de ses péchés au minimum par peur de l'enfer. Mieux, regretter ses péchés par amour de Dieu. Et donc, pour que ce regret des péchés, cette contrition soit là, mais il faut que cette contrition soit interne, soit surnaturelle, soit universelle, soit suprême. Pas tout réexpliquer, c'est des choses que vous connaissez bien. Il faut aussi, pour que cette contrition puisse être vraiment dans notre cœur, il faut évidemment regretter dans la pratique son péché, ses péchés. Il faut donc avoir le ferme propos de ne pas recommencer, et donc pour cela, ne pas garder dans son cœur une occasion prochaine volontaire de péché grave. C'est évident, quelqu'un qui dit au bon Dieu, je demande pardon pour mes péchés, mais qui continue de garder une occasion prochaine volontaire de péché grave, se moque du bon Dieu, donc Dieu ne peut pas pardonner. Dieu n'est pas un Dieu bonin, c'est un Dieu bon et miséricordieux, mais en même temps juste. Il faut aussi, pour pouvoir utiliser la miséricorde du bon Dieu, il faut aussi l'accusation des péchés. Il faut accuser avec le nombre, les circonstances qui changent d'espèce. Il faut aussi la réparation. Attention, pas oublier ça. Pour que Dieu puisse rentrer avec sa miséricorde dans mon âme, il faut que j'ai l'intention de réparer mes péchés. Pas simplement de faire la petite pénitence donnée par le prêtre après votre confession. Il faut aussi changer ce qu'il faut changer dans ma vie. Alors, à ce moment-là, une fois que le bon Dieu est rentré dans mon âme, je peux à ce moment-là jeter sur lui tous mes soucis. Et ça, c'est l'introïde d'aujourd'hui. C'est un passage du psaume numéro 54. Iacta cogitatum tuum in domino tipsit arbitriat. C'est mal traduit ici. Dans le texte que j'ai sous les yeux, c'est le texte de vieux missel. Dans le feu, ils disent, remettez vos soucis au Seigneur. C'est plus que remettre. Yaktare, c'est jeter. C'est jeter dans le Sacré-Cœur tous vos soucis. Présent, passé et futur. Il faut tout jeter dans notre Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ, à partir du moment où il est dans notre cœur, ouvre son Sacré-Cœur pour que nous puissions, en quelque sorte, lui confier toutes nos difficultés, nos tentations, nos découragements, nos bonnes actions et même nos péchés pour qu'il puisse les repardonner. Il y a une phrase que les pères utilisent pour expliquer ce passage. Ils disent qu'il faut agir comme si tout venait de nous, mais il faut espérer comme si tout venait de Dieu. Agir comme si tout venait de nous, parce qu'il faut que nous travaillions nous aussi. Mais espérer comme si tout venait de Dieu, parce qu'on comprend bien que sans le bon Dieu, on peut absolument rien. Et une fois qu'on a mis en place ces deux textes, donc comprendre d'une part que Dieu manifeste principalement sa toute-puissance par le pardon, la pitié, une fois que j'ai compris que je dois jeter dans le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, ouvert pour moi sur la croix, réouvert sur l'autel de la messe, que je dois jeter dans ce Sacré-Cœur toutes mes difficultés, tous mes soucis, toutes mes pensées même. À ce moment-là, je peux me présenter à l'autel. Et c'est l'évangile d'aujourd'hui. L'évangile de Saint-Luc, de ce publicain qui n'ose même pas monter les yeux vers le ciel, qui fait un acte de foi, un acte d'espérance, un acte de charité extraordinaire. Seigneur, souvenez-vous de moi, ayez pitié de moi parce que je suis un pécheur. C'est un acte de foi parce que ce publicain reconnaît que Dieu a le pouvoir de lui pardonner. Un acte d'espérance et un acte de charité. Et l'Évangile nous dit que cette personne, ce publicain, va ressortir du temple pardonné. Au contraire, le pharisien qui est plein de lui-même, c'est Monsieur, moi j'ai fait tout ce qu'il fallait. Celui-là, à cause de son orgueil, ferme la porte à la miséricorde. Et quand un cœur se ferme à la miséricorde du bon Dieu, Dieu est obligé, je dirais, contraint et forcé d'utiliser sa justice. Si au contraire, j'ouvre la porte au bon Dieu, en commençant par suivre évidemment ses commandements, et en regrettant mes offenses contre ses commandements, à ce moment-là, le bon Dieu peut utiliser sa miséricorde. Cette phrase, ô Dieu, ayez pitié de moi, que je suis un pécheur, c'est tout simplement la prière du catholique. Rappelez-vous que lorsque les disciples ont demandé à notre Seigneur Jésus-Christ, apprenez-nous à prier, qu'est-ce qu'a répondu notre Seigneur? Il a donné notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quelle est la volonté du bon Dieu? La volonté du bon Dieu, c'est que son nom soit sanctifié, que son règne arrive, et que nous considérions notre Dieu comme notre Père. Voyons les choses qu'il faut comprendre. Pour que Dieu exerce cette miséricorde, il faut qu'il y ait cette relation filiale entre Dieu et nous. Donc il faut que nous, créatures, nous considérions notre Seigneur Jésus-Christ comme notre Père. Il faut avoir une relation, vraiment une relation d'amour filial à l'égard de celui qui nous a créés. Donc une relation de père à enfant. On demande que notre Père qui êtes aux cieux, c'est la prière du publicain. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est aux cieux, il est aussi sur la terre. Rappelez-vous cet enseignement magnifique de saint Thomas d'Aquin au début de sa somme théologique, qui explique que Dieu n'est pas simplement au ciel, il est aussi sur la terre. Par sa présence, parce qu'il est partout, par sa puissance, parce qu'il peut tout, par son essence, parce qu'il est cause de tout. Et saint Thomas a cette phrase magnifique que je vous cite souvent, et avec plus de familiarité, Dieu est aussi présent par sa grâce dans le cœur de ses fidèles qui ouvrent justement la porte de leur âme à la miséricorde du bon Dieu. Cependant, il faut comprendre qu'il y a un endroit dans lequel Dieu n'est pas. Dieu n'est pas dans un cœur qui vit dans le péché mortel. C'est terrible de dire ça. Dieu est partout, mais il n'est pas dans un cœur qui refuse d'ouvrir la porte à la miséricorde. Qui ne regrette pas ses péchés, par exemple. Ou qui garde une occasion prochaine volontaire de péché grave. Donc dans ce cas-là, Dieu ne peut plus exercer sa miséricorde. Et donc il s'en va de ce cœur. Certes, il est toujours présent dans le sens que c'est lui qui maintient les âmes dans l'existence. Si Dieu arrêtait de penser une seule seconde à nous, notre âme disparaîtrait littéralement, serait annihilée littéralement. Donc Dieu pense à nous, justement, et nous maintient dans l'existence simplement par le fait qu'il pense à nous. C'est une des multiples hérésies de Bergoglio à Rome, qui a dit plusieurs fois que l'enfer n'existait pas, mais que quand une âme meurt comme ennemie de Dieu, elle disparaît. Mais pas du tout. Dieu ne fait pas disparaître les âmes. Il les maintient dans l'existence. Donc de ce côté-là, on peut dire même que Dieu est présent indirectement, même en enfer, parce qu'il maintient les âmes en existence dans l'enfer. Et le Notre Père continue, Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié. Notre Seigneur Jésus-Christ demande à ce que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit sanctifié. L'unique nom qui doit être sanctifié. Il n'est pas question de sanctifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et en même temps de sanctifier le nom des faux dieux. Ça, encore une fois, c'est une des autres hérésies de Bergoglio qui prétend que on peut se sauver avec tous les dieux. Il y a un vrai Dieu, des milliers de faux dieux. Donc on doit sanctifier uniquement le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu n'accepte pas de mettre sa gloire au même niveau que la gloire qu'on donne aux faux dieux. Donc le plus grand des péchés qu'on puisse commettre, c'est le péché d'idolâtrie, l'adoration d'un faux dieu, donner à une créature une gloire qu'on ne doit donner qu'à Dieu seul. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel, qui résume tout. Ça veut dire que votre volonté soit faite. C'est-à-dire qu'il y a deux volontés dans Dieu. Il y a une volonté, appelée la volonté manifestée. C'est celle qui est manifestée par la loi naturelle, qui est manifestée par les 10 commandements de Dieu. Dieu manifeste sa volonté par sa loi, la loi naturelle, qui nous dit tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne prendras pas la femme de ton prochain, etc. Ça, c'est la volonté manifestée. Et puis, il y a une volonté qui est manifesté indirectement, on appelle la volonté de bon plaisir, La bonté qui est manifestée par les circonstances. Les circonstances qui nous indiquent que le bon Dieu permet certaines choses pour un plus grand bien. Dieu est capable de tolérer le mal pour un plus grand bien. Je vais vous donner quelques exemples. La guerre, par exemple. La guerre en soi, il peut y avoir des guerres justes, bien entendu, les croisades, par exemple. Mais la guerre en soi, c'est quand même quelque chose de mauvais. Prenez la Première Guerre mondiale, 14-18, une boucherie. Est-ce que vous réalisez les dizaines de milliers d'âmes qui se sont sauvées dans les tranchées grâce à la guerre? Quand on lit les récits extraordinaires de ces curés à Caudau, surtout pendant la Première Guerre mondiale, le gouvernement français maçonnique avait envoyé les curés en première ligne sur le front, en disant comme ça, ils vont perdre leur foi, et on sera débarrassé d'eux, ils vont perdre leur foi au contact avec les troupes. C'est l'inverse qui s'est passé. Les curés à Caudau, ils sont tous rentrés dans les services d'infirmerie, ils étaient brancardiers. Et au milieu des combats les plus épouvantables, ils étaient là pour aller chercher les blessés. Ils ont fait un travail extraordinaire. Il y avait plusieurs prêtres comme ça dans toutes les tranchées. Et les prêtres passaient de tranchée en tranchée. Ils réunissaient tous les jeunes qui étaient là, qui étaient tous des jeunes qui avaient des 18, 20, 20, 25 ans. Ils étaient pratiquement tous catholiques, au moins de nom. Et ils leur disaient, tout le monde à genoux. Dans quelques minutes, on va partir au front, on va partir se battre, on va devoir sortir des tranchées, peut-être que la moitié d'entre vous, vous serez morts dans une demi-heure. Tout le monde à genoux, on regrette bien ses péchés du fond du cœur, on dit au mon Dieu qu'on l'aime de tout son cœur, on offre sa vie réparation de nos péchés. Il faisait dire un acte de contrition à tout le monde, l'absolution, ego vos absolvo, peccatis vestris, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Je vous pardonne tous vos péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au travail. Et sortez. Meilleurs qui suivaient, la moitié étaient morts. Mais ils avaient reçu l'absolution avant de mourir. Ils avaient été exhortés par le prêtre à regarder leurs péchés. Au site de Thiepval, dans la Somme, près de Péronne. Une demi-heure comme ça, 60 000 jeunes sont morts. Les Anglais. Donc la guerre est en soi peut-être dans ce cas-là quelque chose de mauvais, mais dans la pratique, Dieu a utilisé cette guerre pour sauver ses âmes. Un autre exemple que je peux vous donner, la maladie, la mort, quelque chose de douloureux. On a eu une fois dans une de nos écoles, à l'époque j'étais tout jeune prêtre, j'étais encore dans la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, on a eu un jeune de terminale qui est mort d'une septicémie foudroyante en quelques heures. 18 ans. 18 ans. Mais avant de mourir, il a eu le temps de faire une confession générale, parce qu'il savait qu'il allait y mourir. Il a eu le temps de recevoir l'extrême onction. Et il peut parler avec le père de ce garçon, évidemment. Les parents étaient là pour l'enterrement. Évidemment, le cœur brisé, perdre un enfant à 18 ans, c'est comme quelque chose de très difficile. Et le père disait, Monsieur l'abbé, malgré toute ma douleur d'avoir perdu mon enfant, je remercie le bon Dieu parce que il a pu se confesser et recevoir l'extrême onction. Et je remercie le bon Dieu de l'avoir pris à 18 ans parce que je connaissais mon fils et je sais très bien que si mon fils avait survécu, il aurait très mal tourné. Et effectivement, il avait raison. Et Dieu, dans sa miséricorde, a pris cet enfant à 18 ans. Les modernes vont dire c'est de la cruauté. Ce n'est pas de la cruauté, c'est la miséricorde. Un autre exemple que je peux vous donner, un exemple un peu douloureux, mais c'est pour vous aider à comprendre certaines choses. Je connaissais une dame aux États-Unis qui voulait absolument avoir un enfant. Et son mari n'arrivait pas à avoir d'enfant pour une raison X ou Y. Elle a suivi des tas de trucs, des tas de processus médicaux, plus ou moins moraux d'ailleurs, pour avoir un enfant. Elle a fini par avoir un enfant. Et maintenant, 40 ans après, elle pleure toutes les larmes de son cœur, toutes les larmes de son corps. Cet enfant a très très mal tourné, s'est lancé dans la drogue, s'est lancé dans l'alcool, s'est lancé dans les péchés d'impureté contre nature. Elle comprend un peu trop tard. C'est peut-être pas la volonté du bon Dieu que j'ai cet enfant. Vous voyez, donc il faut dire au bon Dieu vraiment, faire cette prière. Mon Dieu, que votre volonté soit faite. Même si je ne la comprends pas. Même si je ne l'aime pas. C'est facile de suivre la volonté du bon Dieu quand elle nous convient. Ah, mon Dieu, s'il vous plaît, faites que je reçois un lingot d'or demain matin. Puis on reçoit un lingot d'or le lendemain matin. Ah, merci, mon Dieu, d'avoir fait ma volonté. C'est pas ça la prière. C'est mon Dieu, que votre volonté soit faite. Le lendemain matin, vous allez sans doute recevoir, au lieu d'un lingot d'or, une belle croix. Qu'est-ce qui vaut mieux, le lingot d'or ou la croix? Est-ce qu'on peut aller plus facilement au ciel avec un lingot d'or ou on peut aller plus facilement au ciel avec la croix? Vous voyez, c'est ça, c'est tellement important de voir la volonté du bon Dieu. Qu'est-ce qu'elle est la volonté du bon Dieu? Que son règne arrive au ciel et sur la terre. Pas simplement au ciel. Tout le monde reconnaît que notre Seigneur Jésus-Christ est roi au ciel. Mais que votre volonté arrive aussi sur la terre. Parce qu'il est créateur, parce qu'il est rédempteur. Notre Seigneur Jésus-Christ est roi. Faut pas oublier ça, mes bien chers frères. Notre Seigneur Jésus-Christ veut que sa volonté soit faite sur la terre, mais librement. Il ne nous dirige pas comme si nous étions des robots, des esclaves. Et je pense qu'il faut faire un petit peu attention, surtout aujourd'hui. Je voudrais faire quelques petites remarques qui vont certainement faire grincer quelques dents, mais je voudrais quand même les faire parce que on pose beaucoup de questions en ce moment sur Internet, je reçois des messages ou des gens qui me disent, mais monsieur l'abbé, avec cette dictature sanitaire, avec ce Covid qui se développe et qui tue pas plus qu'une grippe, la grippe du printemps, mais qui tue, comme la grippe tue aussi des personnes âgées surtout. Comment faut-il réagir comme catholique? Je crois qu'il faut quand même qu'on fasse un petit peu attention à la façon dont on réagit. On dit, monsieur l'abbé, il faut manifester contre la dictature sanitaire. C'est sûr qu'il faut faire quelque chose. Faire un peu attention quand même. Donne un exemple tout simple. Imaginez une manifestation avec 10 000 personnes qui manifestent contre la dictature sanitaire et qui vont, c'est 10 000 par personne, qui vont marcher ensemble en hurlant liberté, liberté, liberté. Mais sur ces 10 000 personnes qui manifestent, il y en a 9 900 qui vont manifester pour demander liberté pour l'infanticide, liberté pour le divorce, liberté pour la PMA, liberté pour la GPA, liberté pour les changements de sexe. Et vous, en tant que catholique, vous avez crié liberté, et vous criez liberté pourquoi? Vous criez liberté pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse être honoré dans le pays. On crie liberté pour que je puisse me mouvoir dans le bien, pour que je puisse choisir parmi les différentes possibilités que j'ai, la meilleure pour moi, le meilleur instrument pour moi, pour pouvoir sauver mon âme. C'est ça ma liberté. Et on crie les mêmes mots, mais les mots qui signifient des choses totalement différentes pour des païens et pour des catholiques. Donc, en faisant un petit peu attention. Vous voyez, il faut, je crois, faire attention à cela. Les gens me disent, comment déjà me poser des questions, je reçois de plus en plus de messages, monsieur l'abbé, il y a les élections qui arrivent en 2022, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Une fois, faire peut-être un petit peu attention à savoir où on met les pieds quand même. N'oublions pas que nous sommes dans un système politique qui est basé sur un mensonge. Le mensonge, c'est que la vérité dépend du nombre. C'est le nombre qui fait la vérité. C'est ça la démocratie. La démocratie en France, c'est le fait que la vérité est donnée par le nombre. S'il y a plus de 50% des gens qui disent que 2 plus 2, ça fait 5, et bien 2 plus 2, ça fait 5, et puis c'est tout. Faisons un petit peu attention à ces choses-là. Est-ce qu'on a le droit de participer à un système qui est en soi pécamineux, dans le sens que de dire que la vérité dépend du nombre, c'est un blasphème épouvantable contre la vérité même qu'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, au lieu de se poser la question de savoir si c'est un péché de ne pas voter, moi je pense qu'il faut poser la question de savoir si ce ne serait pas un péché de voter dans des circonstances pareilles. Je ne vais pas refuser l'absolution à quelqu'un qui me dit, monsieur l'abbé, je veux une carte électorale, c'est votre problème. Mais faites un petit peu attention, mettez les pieds quand même. Est-ce qu'en tant que catholique, on a le droit de soutenir un système politique qui refuse catégoriquement le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ? Donc, en tant que catholique, je pense qu'un catholique n'a le droit de voter que pour un parti politique qui prêche le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. À ma connaissance, il n'y en a qu'un.
c'est Civitas. Le parti politique de M. Escada prône effectivement le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est peut-être pas parfait. Je ne dis pas qu'il n'y a que des saints dans le temps de Civitas, mais il y a des gens courageux qui se battent pour le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais en même temps, il faut réaliser que si on a certainement le droit, dans un cas comme ça, de voter pour Civitas, parce que justement c'est un parti catholique, en même temps, il faut comprendre que, puisqu'on rentre dans un système qui prône que la vérité est donnée par le nombre, il faut réaliser que Civitas va faire 0,5% des voix, ou 1% des voix. Parce qu'on vit dans un pays dans lequel, malheureusement, l'immense majorité des Français ont complètement perdu la foi, et ont complètement perdu l'idée même que je suis sur la terre pour sauver mon âme. Alors je ne dis pas ces choses-là pour vous décourager, mais je vous dis ces choses-là pour que nous comprenions l'importance de mettre le bon Dieu dans notre vie de tous les jours. Il faut mettre le bon Dieu aussi dans notre vie politique. Alors évidemment, par les temps qui courent, ces choses-là ne passent plus. Monsieur l'abbé, on ne peut plus prêcher ces choses-là. C'est vrai que, spéculativement parlant, vous avez raison. Cependant, à cause de la pratique, c'est quoi la pratique ? Monsieur l'abbé, la réalité, c'est quoi la réalité ? La réalité, c'est que vous et moi allons mourir. C'est ça la réalité. La réalité, c'est que vous et moi, on a une âme à sauver. La réalité, c'est que le jour de notre mort, on va se retrouver devant Dieu qui va nous dire « en compte de ta gestion ». Voilà la réalité. La réalité, c'est qu'il y a un paradis pour ceux qui meurent en état de grâce et un enfer pour ceux qui meurent en état de péché mortel. Voilà la réalité. Il faut peut-être avoir le courage de voir ces choses-là en face. Alors, mes bien chers frères, considérons la conclusion de l'évangile. Je vous le dis, le publicain descendit chez lui justifié, mais pas l'autre, pas le pharisien, car quiconque s'élève sera abaissé, quiconque s'humilie sera exalté. Et donc, il faut avoir le courage, mes bien chers frères, de s'humilier. De dire au bon Dieu, Seigneur, pardonnez-moi, ayez pitié de moi, parce que je suis un pauvre pécheur. Alors à ce moment-là, le bon Dieu nous enviera sa mère. Puisque pour arriver au Sacré-Cœur, il faut passer par elle, parce qu'elle est médiatrice de toute grâce. Nous rentrons dans ce beau mois d'août, qui est le mois, cette grande fête du 15 août, fête nationale de notre pays, et en même temps, la magnifique fête de l'Assomption de la Sainte Vierge Marie. Cette année, par une délicatesse de la Providence, cette fête du 15 août tombe un dimanche. Dans 15 jours, c'est la fête de l'Assomption. Donc demandons à la Sainte Vierge Marie, puisqu'elle est médiatrice de toutes les grâces, d'agir vraiment comme reine de notre pays. Notre pays a été consacré, nous renouvellerons cette consécration du roi Louis XIII à la Sainte Vierge Marie. Notre pays a été consacré à la Sainte Vierge Marie. Nous avons été consacrés à la Très Sainte Vierge Marie le jour de notre baptême. Donc supplions la Très Sainte Vierge Marie d'avoir pitié de nous. Supplions la Très Sainte Vierge Marie d'illuminer notre intelligence pour que nous comprenions pourquoi le bon Dieu nous a donné une intelligence. La semaine dernière, j'ai lu un livre que j'avais sur mon ordinateur depuis des années et des années, que je n'ai jamais eu le temps de toucher. J'ai lu un livre magnifique que je vous conseille justement sur ce sujet, je conseille beaucoup, d'un grand penseur belge, Marcel de Korte. Son livre « L'intelligence en péril de mort », écrit en 1961, qui n'a pas pris une ride. Ce n'est pas un livre très facile à lire. C'est la haute philosophie. C'est magnifique. Notre intelligence est en péril de mort. Donc supplions la Très Sainte Vierge Marie de venir comme un médecin qui s'approche de son malade pour nous rendre l'usage correct de notre intelligence. Que nous n'oublions pas que le bon Dieu nous a donné une intelligence pour découvrir le vrai, pas pour faire ce qu'on veut. Qui nous a donné une volonté pour atteindre cette intelligence, l'objet de cette intelligence, le vrai. Qui nous a donné un cœur pour dominer nos passions. Et pas nous laisser entraîner par tous ces gens modernes qui ont transformé la liberté que le bon Dieu nous avait donnée en licence. Le droit de faire ce que je veux. Non, nous n'avons pas le droit de faire ce que je veux. Et comment comprendre ça? Au pied de la croix. C'est en contemplant notre Seigneur Jésus-Christ exsangue sur la croix, en voyant ce Sacré-Cœur ouvert sur la croix, en voyant la Très Sainte Vierge Marie qui se tient au pied de la croix et qui nous présente le Sacré-Cœur de son divin Fils. C'est par la méditation au pied de la croix, par la méditation au pied de l'autel, parce que la messe c'est la croix, le renouvellement non sanglant au sacrifice de Calvaire, c'est par cette méditation au pied de l'autel que nous comprendrons la grandeur la miséricorde et la justice de Dieu pour nous. Et que nous comprendrons à quel point le bon Dieu nous a envoyé, nous a donné sa mère pour nous aider à utiliser cette miséricorde du bon Dieu dans le respect de sa justice. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.